Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. C'est parti pour la journée ensemble et cette matinale jusqu'à 9h. Nous sommes le mardi 7 juillet, journée décisive pour Marine Le Pen. La présidente des députés RN à l'Assemblée pourra-t-elle se présenter à la prochaine élection présidentielle? La justice doit trancher aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Un jour important, hors norme, voilà ce qu'écrit Jordan Bardella hier soir. Lui qui sera donc le candidat si Marine Le Pen est empêchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ce matin, je veux vous entendre. Est-ce que c'est à la justice de décider qui peut être candidat ou pas? Est-ce que si Marine Le Pen est d'ailleurs condamnée mais pas inéligible, vous considérez que ça a un impact sur votre vote? Quand la candidate est créditée de plus de 30% des voix dans les sondages, est-ce que les juges doivent aussi prendre part dans ces décisions? Vous venez vous exprimer, vous venez débattre. Ça passe par le 3216 et vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. Je poserai la question à Benjamin Morel, le constitutionnaliste, à 7h40, mais aussi la question des conséquences politiques au président des Républicains et candidat pour 2027, Bruno Retailleau. Il sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Et puis dans 10 minutes, on va revenir sur ce séisme dont on vous parlait hier matin. Cédric Jubilard a finalement avoué dans une lettre avoir tué son épouse Delphine. Soulagement pour ses proches, c'est ce que nous dira l'avocate des enfants du couple. L'avocate des enfants du couple qui a choisi RMC pour réagir. Elle sera dans ce studio dans un peu plus de 10 minutes. Et puis ce matin encore, RMC vous fait gagner vos prochaines vacances, n'oubliez pas. On va jouer dans la demi-heure qui vient. Donc restez très très à l'écoute de ces vacances Bellambre. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo, Géraldine. Les deux tiers du pays sont en vigilance orange canicule.
Oui, 61 départements en vigilance orange canicule, donc jusqu'au Finistère et au bassin parisien. Il y a aussi une grande partie du pays qui est en danger élevé, voire très élevé, de feux de forêt. Les températures attendues cet après-midi jusqu'à 40 degrés pour Bordeaux, pour Poitiers, 39 à Toulouse, 38 à Nantes, Bourges, 37 à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou Perpignan, 36 à La Rochelle, 35 à Paris, 34 à Marseille, Montpellier, 32 à Brest, 30 à Lille, et cette vague de chaleur qui va se poursuivre toute la semaine, avec en plus demain à noter le retour du vent sur le Languedoc-Roussillon et les températures qui vont assez peu évoluer dans les prochains jours, et donc cette vague de chaleur qui devrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Il est 7h, passé de 1 minute. Excellent réveil sur RMC. C'est le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une femme méprisable, indigne de sa fonction. Réponse de Kylian Mbappé à l'attaque raciste d'une sénatrice paraguayenne. Elle lui répond ce matin et lui demande des excuses. Sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle? L'avenir politique de Marine Le Pen s'écrit ce mardi. La Cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et trois départements en vigilance rouge, feu de forêt, alerte maximale à l'heure où le sud de la France est déjà en proie aux flammes, avec des milliers d'hectares partis en fumée.
Soutien unanime à Kylian Mbappé.
Cible d'attaque raciste par une sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla. Elle s'en est pris au capitaine tricolore en marche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France face au Paraguay. Elle parle de lui comme d'un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français. Des propos qui ne passent pas et les réactions sont nombreuses. Dernière en date, Fabrice Hawkins, celle de Gianni Infantino.
Oui, le président de la FIFA condamne sans équivoque les propos racistes de la sénatrice. Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l'équipe de France. Un peu plus tôt dans la journée, Kylian Mbappé s'est défendu sur le réseau social X. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay. Quelques lignes qui ont une résonance mondiale. Les réactions qui suivent témoignent de la force de frappe et de l'influence du buteur. En déplacement en Syrie, le président de la République vient au soutien du joueur du Real Madrid qu'il connaît personnellement. Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme, cette fois, tout mon soutien assure Emmanuel Macron. La sénatrice est même désavouée dans son propre gouvernement au Paraguay. Dans la délégation de l'équipe de France, tout le monde est choqué. Les joueurs ne comprennent pas comment une femme politique peut s'exprimer de la sorte en toute impunité. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, résume en trois mots la pensée des Bleus sur cette histoire. Indigne, abjecte et scandaleuse.
Et ce matin, dans une lettre ouverte à Kylian Mbappé, la sénatrice tente de s'expliquer, évoquant ses passages en France, des réveillons à Courchevel et Saint-Tropez, dit-elle. Elle dit adorer visiter la France, évoquant un problème d'ordre personnel avec Kylian Mbappé, lui réclamant des excuses, le menaçant de poursuites. Le foot sur le terrain, avec la qualification de la Belgique cette nuit, tombeur des États-Unis 4-1 en quart de finale, les Diables Rouges retrouveront l'Espagne qui a dû batailler pour venir à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo qui annonce avoir joué son dernier mondial 1-0 en faveur des Espagnols.
Il est 7h03 sur RMC, une décision qui peut tout changer.
Celle de la Cour d'appel de Paris qui doit trancher cet après-midi l'avenir politique de Marine Le Pen, rejugée dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Le parquet général a requis la même peine qu'en première instance, 5 ans d'inéligibilité, mais aussi une année de prison ferme aménagée sous bracelet électronique. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Si la Cour suit ses réquisitions, la chef de file des députés RN ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Et même sans ça, Sébastien, le chemin d'une quatrième candidature est plus escarpé que jamais.
Oui, il faudrait un sacré revirement pour que Marine Le Pen puisse finalement concourir. Elle, qui en première instance a été condamnée au motif qu'elle était à la tête d'un système visant à détourner l'argent du Parlement européen pour rémunérer des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti. Elle a bien changé de stratégie en appel, plaidant cette fois la bonne foi, estimant qu'il y avait une zone grise. Est-ce que cela sera suffisant? Une relaxe serait un coup de tonnerre. Le scénario espéré par le camp Le Pen, c'est plutôt celui d'une peine atténuée sur deux points essentiels. L'inéligibilité, 5 ans requis, il faudrait que les juges la ramènent à 2 ans maximum. Elle l'aurait ainsi purgée avant la présidentielle. Et puis, il faut éviter la prison ferme et ce bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne. Et encore faut-il que le parquet ne conteste pas cette décision devant la Cour de cassation. L'un de ses plus proches résume, pour elle, c'est vertigineux, c'est l'engagement d'une vie qui peut être stoppée aujourd'hui, même si, face à son entourage, Marine Le Pen, elle, ne montre rien et s'affiche sereine, répétant qu'elle refuse de stresser pour quelque chose qui lui échappe. « Je n'ai pas peur », disait-elle ces derniers jours.
Et quoi qu'il en soit, Sébastien, Marine Le Pen prendra sa décision dans la foulée.
Oui, candidate ou empêchée, les deux scénarios sont écrits pour les prochains jours. Tout a été décidé en très petit comité, certaines choses en tête à tête avec Jordan Bardella pour éviter les fuites. Marine Le Pen aux 20h ce soir pour sa première déclaration. Si les conditions ne sont pas réunies, elle lui passera immédiatement le flambeau avec la volonté de ne pas épiloguer sur les juges pour que la campagne commence très très vite.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, retour ce matin sur les aveux de Cédric Jubilard. Il a reconnu sa responsabilité dans la mort et la disparition de son épouse Delphine en 2020. Il le dit dans une lettre adressée à ses avocats. L'un d'eux réagit dans une interview accordée à nos confrères de BFM TV. Maître Guy Dubuisson évoque une dispute qui a mal tourné.
Ce qu'il nous a dit, c'est que c'était pas du tout un meurtre. Il n'avait pas du tout, bien sûr, l'intention de tuer son épouse dans un appartement ou dans une maison où il y avait deux enfants en train de dormir. Et la suite, c'était quoi? C'était ou appeler immédiatement la gendarmerie ou la police en disant, bon, ben, j'ai fait une bêtise, voilà ce qui s'est passé, je crois que mon épouse est décédée, venez vite. Ou au contraire, dans un moment de panique, ce qu'il a fait, tenter de se réorganiser différemment et de faire en sorte que, provisoirement ou définitivement, le corps de Delphine disparaisse pour ne pas que les enfants se réveillent en voyant le cadavre de leur mère. C'est l'explication qu'il fournit.
Et de nouvelles révélations qui pourraient relancer les investigations et de fait retarder le procès en appel de Cédric Jubilard prévu en septembre.
RMC 7h06, l'incendie des Pyrénées-Orientales n'est toujours pas fixé ce matin.
Il est cependant stabilisé à plusieurs endroits. C'est ce que dit Laurent Nunez en déplacement sur place hier, évoquant une dizaine de blessés. 4900 hectares ont déjà brûlé, obligeant les autorités à évacuer plus de 12 000 personnes. Des habitants d'une vingtaine de communes alentour, 10 sur tête, appelés à ne pas regagner leur domicile, consigne pas forcément respecté.
Ma mère, elle était des problèmes à se déplacer, et comme elle avait pas trop envie de partir, on est resté là. J'ai reçu l'ordre d'évacuation, mais comme on s'est dit que ça risquait rien, et puis au pire, si jamais ça empirait, on serait parti. Tant que les flammes elles rentrent pas vraiment dans la ville, je pense je vais rester ici.
Et là, je suis venu pour prendre mes affaires et partir, hein, parce que les pompiers voulaient pas, et j'ai dit pour prendre mes affaires, voilà.
Donc là, vous emballez quoi exactement?
Eh ben là, j'ai pris les matelas, le lait, les sacs, les papiers, les couches de bébé, le lait, tout ça. Et après, on s'en va.
Et 3 départements sont ce matin en vigilance rouge. Feux de forêt, plus de 60 sont également concernés par une vigilance à la canicule. On a relevé plus de 40 degrés hier dans plusieurs départements de la moitié sud. Les températures devraient continuer de grimper ce mardi après une hausse de la mortalité. En juin, les professionnels de santé sont sur le pont, plus mobilisés que jamais, quitte à adapter leur planning. C'est le cas de cette infirmière libérale, suivie dans sa tournée du côté de Blanquefort en Gironde par Philippine Boulet.
Mallory, infirmière libérale, arrive chez Françoise, 76 ans. Sa patiente l'accueille dans la pénombre, volet fermé.
Vous avez
des
nouvelles, les enfants ?
Depuis vendredi, plus aucune nouvelle.
Avec la canicule, les visites de l'infirmière se multiplient, 2 à 3 fois par jour contre une habituellement.
C'est très important, quoi. On apprécie.
En période de canicule, les fragiles sont d'autant plus fragiles puisqu'ils s'isolent plus. On ne repère plus quand un voisin n'ouvre plus ses volets puisque c'est normal de ne plus ouvrir ses volets vu qu'il fait chaud.
Quelques kilomètres plus loin, à peine arrivée chez Jacqueline, l'infirmière lui sert un grand verre d'eau. Cette patiente de 85 ans a perdu 4 kilos depuis la dernière canicule.
Elle est trop fatiguée pour manger. Habituellement, elle ne passe pas toute sa journée dans le lit dans sa chambre. Elle fait des activités extérieures avec son auxiliaire de vie. Même accompagnée et à la fraîche, là, elle n'y arrive plus.
Alors, Mallory lui donne un coup de main au-delà de ses soins habituels.
On passait chez elle entre 11h et midi, et donc là, on passe entre 7h moins le quart et 7h30. On ouvre tous les volets, les fenêtres, pour faire un courant d'air le temps des soins du matin.
Fatiguée par des journées à rallonge, l'infirmière espère que cet épisode de canicule ne durera pas trop longtemps.
Une chaleur que les coureurs du Tour de France vont devoir dompter. 4e étape entre Carcassonne et Foix avec un nouveau maillot jaune. Déjà sur les épaules de Tadej Pogacar qui a fait coup double hier en s'imposant aux Angles.
Merci Thibaut. Thibaut Texer, il est 7h09, c'est l'heure de vous offrir vos vacances sur RMC. Souvenez-vous, jusqu'à vendredi, on vous fait gagner vos prochaines vacances. À la mer ou à la montagne, vous remportez un séjour d'une valeur de 2 000 € dans les clubs et hôtels Bellembrun qui est spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellembrun s'occupera des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium et c'est ça qu'on vous offre sur RMC pour remporter votre séjour Bellembrun. Vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembrun. Bellembrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il y a quelques semaines, il m'a dit, écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné.
L'homme que vous entendez, c'est Pierre Dubuisson, l'un des avocats de Cédric Jubilard. Il a donné quelques explications hier après le revirement de son client. Oui, Cédric Jubilard a bien tué son épouse Delphine en décembre 2020. Bonjour maître Malika Chmalini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes l'avocate des enfants de Delphine et Cédric Jubilard. Pour ces enfants, c'est un véritable soulagement. C'est votre parti pris, vous nous le dites et vous nous donnez leur réaction dans un instant sur RMC. 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Après plus de 5 ans de déni, Cédric Jubilard a fini par avouer le meurtre de sa femme Delphine en décembre 2020. Bonjour maître Malika Chmalini.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate des deux enfants du couple Jubilard, Louis et Elia. Ils sont âgés de 11 et 7 ans aujourd'hui. Ils vivent avec leur tante. Et ce matin, vous nous dites qu'ils sont soulagés. Comment vont-ils ?
Je crois qu'ils sont sous le choc, comme nous tous, hein, puisqu'on a appris cela par la presse. Je crois qu'ils sont soulagés parce que ça fait des années qu'ils demandent à leur père de dire la vérité. Donc c'est une première étape, mais maintenant on attend la suite. Hein. On a eu des aveux, j'ai envie de dire, de la part des avocats, mais on n'a pas de déclaration écrite, on n'a pas de choses qui ont été retranscrites, on ne sait pas où est le corps, donc maintenant il faut avancer.
On se souvient des mots du fils du couple qui ne dit plus papa, qui dit monsieur à propos de Cédric Jubilard et qui lui demandait instamment lors du dernier procès, non seulement d'avouer mais de dire aussi où était le corps. Il avait besoin, disait-il, de pouvoir se recueillir, de pouvoir avoir une tombe pour sa mère. C'était essentiel et ça fait partie de ce que peut-être Cédric Jubilard va enfin permettre.
Oui, il est temps. Je tiens à préciser que le mois dernier, je l'ai vu, Cédric Jubilard, devant un juge des enfants, et je lui ai posé la question, parce que Louis, le mois dernier, me demandait aussi de demander encore à son papa où est le corps de maman, en fait. Hein. Donc à ce moment-là, Cédric Jubilard n'a pas répondu.
Il ne vous a pas répondu, c'est-à-dire que vous êtes face à Cédric Jubilard dans le cadre d'un de ces moments où il doit répondre devant le juge des enfants. Vous lui dites, votre fils demande
Et il ne répond pas.
Il ne répond pas. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant, on avance, mais il faut avancer un peu plus vite. Moi, j'ai envie de dire, je m'inquiète pour ces enfants parce qu'on les a préparés à une échéance. L'échéance d'un procès, ça permet d'avancer.
Donc un procès qui devait se tenir, ce procès en appel, en septembre, et vraisemblablement, il sera repoussé.
Oui, mais je le crains.
Ça, vous le craignez?
Je le crains, bien sûr que je le crains, parce que ça fait des mois qu'on les prépare, ces enfants. Ça fait des mois qu'ils disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Un procès, c'est un statut de victime. Une reconnaissance, c'est bien si elle est totale et entière, hein, parce que aujourd'hui, on connaît pas la position précise de Cédric Jubilard. Et c'est le début d'autre chose. Aujourd'hui, les enfants, ce qu'ils se disent, c'est s'il y a un procès, après, est-ce que ça s'arrête? Donc maintenant, il y aura pas de procès. Donc ça veut dire que c'est encore de l'infini, de la confusion dans l'esprit de ses enfants. Donc oui, je regrette que ces déclarations viennent juste 2 mois avant un procès. Voilà, je pense que si on est dans l'intérêt des enfants, peut-être qu'on se serait questionné peut-être quelques temps avant. La manière aussi de recevoir cette information, je crois que peut-être un courrier adressé à la famille ça aurait permis de faire mieux les choses, parce que ces enfants, ils sont au quotidien confrontés à tout ça.
Je suis très frappée dans votre réaction, Maître Malik Hashmani, par le fait que, au fond, vous dites, certes, il avoue, mais on l'entend que vous le dites, il n'avoue pas pour les enfants, il n'a même pas répondu aux enfants. Les mots, d'ailleurs, de Cédric Jubilard, on ne les a pas, comme vous le dites, oui. Puisque les avocats évoquent ce qu'il a dit, mais n'ont pas lu la lettre à proprement parler. Au fond, vous estimez qu'il n'est, encore une fois, pas un père.
Alors non, je me permettrai pas de dire cela, parce que depuis un an quand même, je le dis, il a écrit à 4 reprises à ses enfants. C'est quelque chose de nouveau. L'an dernier,
ça c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau. Il a fait l'effort, j'ai envie de dire. Alors il est pas trop en demande, il n'exprime pas grand chose, mais il y a des lettres qui sont reçues positivement pour les enfants. Voilà, les choses elles évoluent.
À un moment où on le reprécise, Cédric Jubilard a été déchu de son autorité parentale.
Il a été déchu de l'autorité parentale, mais il a relevé appel et du coup, ce n'est pas exécutoire. C'est pour ça qu'il a été convoqué devant la magistrate, qui lui expliquait que la prochaine fois, s'il était encore déchu, elle ne le convoquerait plus. Donc aujourd'hui, il fait partie de la vie de ses enfants. Il a écrit à plusieurs reprises. Ça a été reçu positivement, mais derrière, il n'élabore pas. Il n'élabore pas, il s'exprime pas. Donc voilà, je prends tout ce qui est bon à l'intérêt des enfants. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il reconnaît. Parce que moi, j'entends qu'il faut pas employer le mot de meurtre, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il reconnaît, Cédric Jubilard. Moi, j'attends de voir. On va me parler d'accident. Je crois qu'il faut pas réécrire l'histoire. Pas cette histoire qu'on a depuis 5 ans. Si on réfléchit à tout ce qu'il a pu dire avant, je vois pas comment on peut partir sur des coups mortels et ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parce que c'est ce qui se profile.
C'est ce qui se profile. Et c'est ce qu'en tout cas, visiblement, vont vouloir plaider ses avocats.
Sûrement.
Qui disent, qui laissent entendre que c'est une dispute qui a mal tourné, qu'il ne voulait pas la tuer. C'est cette musique-là que vous entendez derrière les mots des avocats.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut pas utiliser le mot meurtre. Alors du coup, on n'est pas sur ça. En tout cas, on parle paradoxalement de crime passionnel. Enfin, moi, j'ai lu un dossier et c'est un féminicide. Le crime passionnel, ça n'existe pas, ça n'existe plus. On a Delphine Jubilard qui a essayé à un moment donné de sortir de l'emprise de Cédric Jubilard, qui, parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qui voulait partir, et voilà, elle a été empêchée de cela jusqu'au bout, il a empêché.
Maître, vous avez dit que pour l'intérêt des enfants, le fait de repousser ce procès serait quelque chose qui va les troubler, puisqu'ils sont prêts à cette échéance. Du point de vue de la défense de Cédric Jubilard, ils disent désormais, nous avons ces éléments-là, il faut mécaniquement que la justice repousse ce procès. Quel argument vous pouvez avoir vis-à-vis de la justice pour leur dire, non, maintenez la date prévue?
Alors les enfants, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maman, ils ne la retrouveront pas, donc ils gagneront rien de tout cela. Ils ont leur père qui est incarcéré, ils ont refait une vie. Aujourd'hui, cette affaire est extrêmement médiatisée, on en a beaucoup parlé, on les a préparés. J'étais pas favorable à une date en septembre, parce que c'est la rentrée des classes. Donc cette date a été fixée, donc on les a préparés à cela. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on remet une échéance et qu'on va être baigné de tout cela encore pendant des mois. Et je crois, dans l'intérêt des enfants, qu'il faut travailler travailler vite, alors bien. Alors, je suis pas naïve, peut-être que ce sera pas possible, mais qu'on essaye au moins de tenir le calendrier. Et je regrette, parce qu'on parle beaucoup de l'intérêt des enfants depuis hier, je regrette qu'on n'ait pas pris plus de précautions et que peut-être des révélations un peu plus tôt auraient permis une certitude sur une tenue de procès.
Je vous pose encore une question sur la question de l'autorité parentale. Il en a été déchu, ça faisait partie de la peine qu'il a reçue en première instance. Les enfants souhaitent-ils que leur père reste officiellement leur père ?
C'est une question compliquée. Alors, il y a une enfant qui a aujourd'hui 7 ans. Je crois que c'est trop compliqué pour elle. C'est pour ça qu'elle a un administrateur ad hoc. Aujourd'hui, on a des enfants qui craignent qu'une chose aussi, c'est que si jamais ça s'arrête, c'est qu'à un moment donné, papa puisse venir les récupérer. Donc voilà, ça répond en partie à votre question. C'est-à-dire que les enfants, ils sont bien aujourd'hui avec un cadre qui est extrêmement bienveillant, un oncle et une tante. Et c'est pas parce que aujourd'hui les choses ont changé, parce que j'ai entendu dire que Cédric Jubilard voulait récupérer ses enfants. C'est quelque chose qui va mettre en panique. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les enfants, ils vont être en panique. Et c'est une question qui a pu être posée à un moment donné par l'aîné. C'est qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, il reconnaît et il sort ? Voilà, c'est la panique à bord, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, l'intérêt des enfants, c'est de rester là où ils sont, parce que ils ont grandi avec des violences, de la violence physique, de la violence psychologique, et être père, c'est aussi être capable d'éduquer ses enfants, et il a failli à ses obligations.
Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps ce matin à notre micro à d'RMC. Maître Malika Achmani, vous êtes donc l'avocate de Louis et Elia, les deux enfants du couple Jubilard. Il est 7h22, Arthur Chevalier, comme chaque matin, on va remonter le temps avec vous. Emmanuel Macron est en Syrie pour une visite d'État historique.
Oui, entre la France et la Syrie, c'est une relation tortueuse, avec des hauts et beaucoup de bas depuis plus d'un siècle et demi.
Ne bougez pas, on se retrouve dans 40 secondes sur RMC, 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Syrie pour une visite d'État. C'est un événement diplomatique mondial.
Eh oui, déjà parce que c'est le premier président français à se rendre en Syrie depuis Nicolas Sarkozy. C'était il y a 17 ans. Mais c'est aussi marquant parce qu'Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à se rendre en Syrie depuis la prise de pouvoir du chef d'État actuel, l'ancien djihadiste Ahmed Al-Shara.
Symboliquement, la Syrie, c'est évidemment pas n'importe quel pays pour la France.
Hein. Non, puisque la Syrie, c'est une de ses zones d'influence dans le monde arabe et ça remonte au 19e siècle. À l'époque, la Syrie n'est pas indépendante, elle fait partie de l'Empire ottoman. Et en 1860, dans la ville de Damas, donc l'actuelle capitale de la Syrie, il y a un massacre de chrétiens, des chrétiens d'Orient. Qu'à cela ne tienne, l'empereur français de l'époque, c'était Napoléon III, il réagit en envoyant des milliers de soldats français pour secourir les chrétiens en Syrie. C'était une première étape dans la relation entre nos deux pays.
La Syrie va ensuite devenir quasiment française.
Oui, en 1920, la Syrie devient ce qu'on appelle un mandat français. Alors un mandat, qu'est-ce que c'est ? C'était un statut international qui voulait dire, en gros, qu'un territoire était administré par un autre. C'est une sorte de tutelle, si vous préférez. La Syrie était donc sous tutelle française. Et ça s'est fait par la force, puisque les Syriens voulaient être indépendants. Mais nous, on a réglé ça en envoyant l'armée.
Comment va réagir à ce moment-là la population syrienne ?
Forcément très mal, hein. Même si c'était pas une colonie, qu'il y avait très peu de Français sur place et que la langue officielle n'était pas le français, l'écrasante majorité des Syriens étaient pour l'indépendance. Même si c'est vrai qu'en Syrie, il y a toujours eu un intérêt pour la France, son histoire et sa culture.
Les Syriens vont finir par réclamer donc une vraie indépendance.
Absolument, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la population syrienne se soulève contre la France, hein, mais Paris ne lâche toujours pas l'affaire. On envoie l'armée, on va même bombarder Damas en commettant des atrocités. Il faut que l'armée britannique intervienne contre nos soldats pour qu'on arrête le massacre. Une situation clairement intenable. La même année, donc en 1946, la Syrie obtient son indépendance.
Après ça, est-ce qu'on va rester proche de la Syrie ?
Oui, plutôt. Surtout un de nos présidents, Jacques Chirac, se rapproche d'Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, c'est un dirigeant très autoritaire qui a dirigé la Syrie pendant 30 ans. En 2001, ce même Jacques Chirac suscite même un scandale en remettant la Légion d'honneur au fils d'Hafez al-Assad, un certain Bachar al-Assad. Ça revenait évidemment à rendre hommage à une dynastie de dictateurs. C'est donc une histoire longue, compliquée et il faut bien le dire, pas très glorieuse pour nous, Apolline.
C'était Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h25 dans un instant. La météo et le journal de 7h30. Et puis je vous attends au 32-16 pour venir réagir avec nous. Marine Le Pen sera-t-elle la candidate du RN pour la prochaine présidentielle. La réponse, ce sera à la mi-journée. La Cour d'appel de Paris qui doit rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La présidente du groupe RN à l'Assemblée verra-t-elle sa peine confirmée? Dans ce cas, elle passera la main à Jordan Bardella. On fera le point à 7h40 avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. Mais je vous attends dès à présent au 32-16. Qu'est-ce que ça change pour vous, d'abord, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Est-ce que vous considérez que c'est à la justice, en effet, dans le calendrier électoral, de prendre sa décision, de rendre sa décision aujourd'hui? J'attends vos réactions au 32-16. Et puis à 7h50, notre voix de gauche, Cécile Duflot, elle reviendra sur le racisme dont est victime Kylian Mbappé, tollé après les propos de cette sénatrice paraguayenne. Pour l'ancienne ministre, le capitaine de l'équipe de France a évidemment raison de répondre. Et puis je vous attends, vous aussi. Le 32-16 vous est ouvert. Venez donc réagir. Il est 7h26 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Journée décisive contre les flammes des Pyrénées-Orientales. Le vent se calme et les pompiers veulent en profiter pour matraquer l'incendie. Il a déjà ravagé 4900 hectares et les exploitations d'agriculteurs désemparés. Attention aux explosions. C'est l'alerte des syndicats du gestionnaire électrique RTE ce matin. Inquiet pour les grands transformateurs soumis, comme nous, à une troisième canicule en deux mois. Obrigado, Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, dit adieu à la Coupe du Monde sans la gagner après son élimination hier soir face à l'Espagne.
Une fenêtre de tir s'ouvre pour les pompiers des Pyrénées-Orientales.
Moins égale plus. Moins de vent prévu aujourd'hui. Plus d'espoir d'éteindre l'incendie qui a déjà parcouru 4900 hectares. Journée cruciale. Une nouvelle loin de chez eux pour les quelques 12 000 habitants évacués comme à Y-sur-Tête. Rachel Sadodine, où vous avez rencontré un agriculteur venu constater les premiers lourds dégâts.
Au milieu d'un paysage dévasté, terre noircie, troncs d'arbres en cendres, seuls les arceaux des serres abritant les framboisiers d'Yves tiennent encore debout. Les bâches en plastique ont été dévorées par les flammes.
Quand ça a traversé la rivière, c'est rentré dans les serres.
Et à l'intérieur des serres, c'est quoi le bilan? Le choc et même les larmes de Jean. Le père d'Yves habite juste à côté des serres. Il a vu les flammes ravager l'exploitation familiale.
Toute une vie, 89 ans, le travail qu'on avait fait... Il est en train de disparaître. On avait des framboises magnifiques. On va aller voir les dégâts.
La tête entre les mains, Jean avance péniblement, épaulé par son fils jusqu'au framboisier, toujours debout, mais très abîmé par la chaleur des flammes. Yves attrape un bouton de fleur.
Ça devait être cueilli juillet, août, septembre. On récoltera pas. Un peu désabusé.
Vous avez les reins assez solides pour tenir ce coup dur, là?
Pas du tout. J'ai pas les moyens de remettre.
Car la petite entreprise familiale ne pourra pas compter sur un dédommagement. Les serres détruites n'étaient pas assurées. La faute, selon Yves, a un coût beaucoup trop élevé pour sa trésorerie.
L'envoyé spécial de RMC à Y-sur-Tête, Rachel Sadodine, un autre incendie en cours dans la Drôme, près de Die, a quant à lui ravagé un millier d'hectares. Notez que deux hommes sont toujours en garde à vue ce matin, l'un dans l'Hérault, l'autre dans le Rhône, tous deux suspectés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Ce qui n'arrange pas le travail des pompiers, c'est cette troisième canicule en deux mois. Vous aurez du mal à y échapper aujourd'hui. 61 départements sont en vigilance orange, les trois quarts du pays, excepté le Nord et le Grand Est. C'est suffisant. Au camp pour nous, c'est potentiellement catastrophique pour le réseau électrique et donc dangereux pour les salariés du gestionnaire électrique RTE. Marion Gauthier, il lance l'alerte ce matin.
Oui, plus de 500 appareils ne seraient pas adaptés pour les représentants du personnel de maintenance du réseau haute tension. La chaleur affecte l'isolant électrique, explique un syndicaliste, ce qui peut créer une explosion, comme dans le Finistère, fin juin, par 40 degrés, celle de transformateur. Plus de 60 000 ménages ont été privés d'électricité. Des agents d'Astra était dans le poste à proximité, alertent les salariés de RTE qui ont exercé leur droit d'alerte. Ils réclament des explications, la mise en place d'un périmètre de sécurité et la mise hors tension ou le remplacement des appareils défaillants. La direction de RTE assure, elle, que l'infrastructure peut faire face à de fortes chaleurs, que des protections permettent de déconnecter les installations en cas d'anomalie.
Marion Gauthier pour RMC. Les ambitions présidentielles de Marine Le Pen peuvent s'éteindre dès aujourd'hui. Bracelet électronique ou non, inéligibilité ou non, la justice va trancher en appel à partir de 13h30 le sort de la chef du Rassemblement National accusée de détournement de fonds publics dans cette affaire, condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique et également à 5 ans d'inéligibilité. La présidentielle est l'un de ses principaux thèmes, l'état des finances publiques. Comité d'alerte à Bercy. Ce matin, 11h, des ministres, des parlementaires et autres syndicats réunis au ministère de l'économie fin avril. Cela avait abouti à 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires annoncées. Nouveau tour de vis prévu aujourd'hui, Cyprien Pézril, avec des gels de dépenses.
Oui, parce que le cap des 5% de déficit cette année paraît difficile à tenir pour certains dans l'exécutif. D'autant que ce matin, le gouvernement devrait revoir à la baisse sa prévision de croissance sur laquelle elle se basait. Une économie qui tourne au ralenti du fait notamment de la guerre au Moyen-Orient ces derniers mois. Ce sont donc des efforts supplémentaires à réaliser, ne cache pas Bercy, en plus des 6 milliards d'euros de dépenses déjà gelées. En tout, ça pourrait être autour de 10 milliards, estime auprès de RMC Eric Coquerel, le président LFI de la commission des finances à l'Assemblée. Parmi les pistes d'économie, le déremboursement de certains médicaments, la hausse des franchises médicales, mesure que le gouvernement pourrait acter rapidement dans l'été avec de simples décrets. Les arbitrages ne sont pas pris, tempère-t-on au ministère de l'économie, mais nous sommes assis sur un baril de poudre, prévenait encore récemment le ministre des Comptes publics.
Cyprien Pézril du service politique de RMC. Elle ose demander des excuses à Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne, aux récents propos racistes contre l'attaquant français, a posté une lettre ouverte. Ce matin, elle reproche au joueur de l'avoir qualifié de méprisable et d'indigne dans sa réponse. Kylian Mbappé a reçu le soutien d'Emmanuel Macron et du patron de la FIFA. Et maintenant, place au terrain.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et plus aucun pays hôte de la Coupe du Monde n'est en lice dans la compétition. Les États-Unis ont été éliminés 4-1 cette nuit par la Belgique. C'est terminé aussi pour le Portugal. Défait 1-0 par l'Espagne. C'est comme ça, donc, sans jamais gagner ce trophée, que se conclut définitivement l'aventure Coupe du Monde pour la légende Cristiano Ronaldo. Jérôme Sillon.
Venu du monde entier au Dallas Stadium spécialement pour lui, les supporters de Cristiano Ronaldo se rappelleront avoir assisté au 27e et ultime match de leur idole en Coupe du Monde.
C'est triste, mais avoir l'opportunité d'assister au dernier match de Ronaldo, c'est un privilège.
C'est comme ça. On est venu de Californie pour voir jouer Ronaldo et ça valait le coup. Aucun regret.
À 41 ans, Ronaldo tire sa révérence après une 6e participation à la Coupe du Monde, sans jamais avoir soulevé le trophée suprême.
La conscience tranquille.
Je parle la conscience tranquille. J'ai tout donné. J'ai soulevé 3 trophées avec le Portugal. Avant Cristiano, le pays n'en avait gagné aucun. Je suis content. Le plus beau titre en sélection, c'est l'Euro 2016. Pour moi, ça a la même valeur qu'un mondial.
Pour ses fans, l'héritage du quintuple Ballon d'Or est inestimable.
C'est le meilleur des meilleurs, le GOAT.
On s'en rappellera comme l'un des plus grands de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Le seul regret, c'est qu'il n'ait pas gagné la Coupe du Monde, sinon il serait le plus grand.
Avec 146 buts en 244 sélections, les records de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ne sont pas prêts d'être battus.
Suite et fin des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, 18h, Argentine, Égypte et 22h, Suisse, Colombie. Ce sera évidemment à suivre sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 7, Egyptian Glory. L'outsider, c'est le numéro 15, Mister Black, le 7 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. On part au 32-16. Et au 32-16, c'est Sophie qui nous appelle du Loiret. Bonjour Sophie.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Sophie? Vous êtes enseignante à Orléans et vous vouliez réagir à ces propos et à la manière dont Kylian Mbappé a répondu donc à cette sénatrice paraguayenne. Je vous écoute.
Bah déjà, au moment du match, je trouve que les Français ont très bien réagi, même après. Moi j'étais outrée, de toute façon, qui ne serait pas outrée des mots de cette femme. Et puis Kylian Mbappé a très bien répondu, de façon très intelligente. Et pour nous, les enseignants d'enseignement moral et civique, c'est un bon départ de travail sur les discriminations et notamment sur le racisme.
C'est formidable ce que vous nous dites, c'est vous pensez déjà à l'après. C'est-à-dire effectivement au fait que c'est une manière de lancer le débat avec avec vos élèves. Vous parlez beaucoup de la question du racisme avec vos élèves dans ces cours-là?
Ah mais c'est indispensable. L'enseignement moral et civique, les discriminations en collège, on le fait toujours, c'est dans le programme. Là, c'est un très, très bon départ de cours. Oui, effectivement, pour... Puis en plus, les gamins sont très, très fans de foot. Les collégiens, les garçons, les filles aussi, on a des filles qui font partie d'équipes de foot. Donc, ils écoutent, là. Ils vont avoir suivi.
Donc, ils vont avoir suivi. Vous pensez déjà à septembre, parce que vous êtes en vacances, là, Sophie, quand même.
Oui, oui, oui. Mais moi, bon, on s'intéresse aux informations. Autant, oui, voilà.
Voilà, pendant l'été aussi, et je vois que vous vous levez tôt malgré tout. Merci beaucoup, merci Sophie d'être passée par le 32-16. Effectivement, c'est aussi un modèle, cette réponse de Kylian Mbappé. Et on y reviendra, tiens, à 7h50, la voix de gauche, parce que c'est mardi, c'est Cécile Duflot. Et Cécile Duflot, elle soutiendra évidemment le fait que Kylian Mbappé ait pris le temps de répondre et de poser des mots. Rendez-vous donc à 7h50, il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Extrême chaleur et incendie dans le sud de la France. Et vos témoignages?
Ben oui, par exemple, celui de Sébastien qui nous écrit et je vous contacte depuis le Vaucluse. La préfecture vient de serrer la vis à cause des risques extrêmes. Interdiction totale de bosser avec le tracteur après 13h. Résultat, on fait nos heures. On ne laisse pas cramer les vignes. On attaque le chantier à la fraîche dès 5h du matin. Et c'est la course contre la montre. Avant que le couperet de 13h ne tombe, on s'adapte, on protège nos massifs. Mais bosser à ce rythme-là avec la poussière et la chaleur, je peux vous dire que la pause de 13h est méritée. Force à tous les collègues du monde agricole qui sont sur le pont aux aurores, nous écrit Sébastien ce matin. On a Jenna qui nous écrit qu'elle, depuis le Mont Ventoux, elle sent l'odeur des incendies à 50 km à vol d'oiseau. Elle ajoute une photo sur le WhatsApp RMC. Puis François qui nous écrit, lui, qu'il faut que l'effort soit fait par les entreprises pour libérer les pompiers. On en parle ce matin et vous continuez à réagir au 32-16.
Et puis cette question politique à la une, quel avenir pour Marine Le Pen? Écoutez Jordan Bardella hier.
Serein et prêt à assumer les conséquences de la décision de la Cour d'appel. Quelle que soit cette décision, la campagne démarrera dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et nous serons prêts quoi qu'il arrive.
Nous serons prêts quoi qu'il arrive, mais les juges doivent avoir en tête le poids politique de leurs décisions. Voilà ce que disait Jordan Bardella hier. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences à Paris, Panthéon, Assas. On va essayer de comprendre avec vous les différents scénarios. Et qu'est-ce que ça change fondamentalement pour une potentielle campagne ou une potentielle candidature? Pour vous, au fond, la campagne pour 2027, elle commence aujourd'hui, c'est cette décision qui va en donner le coup d'envoi. Vous nous le dites dans un instant dans ce studio. Et vous aussi, vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir au 32-16, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. L'heure de la décision pour Marine Le Pen. La triple candidate à l'élection présidentielle pourra-t-elle être candidate en 2027? Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes maître de conférence à Paris, Panthéon, Assas. La Cour d'appel de Paris se réunit à partir de 13h pour rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Condamné en première instance, le parquet a requis un an de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Quels sont les scénarios possibles?
Il y en a deux, en gros. Le premier, ce serait que Marine Le Pen soit condamnée à moins de 2 ans d'inéligibilité. Souvenez-vous, la peine, en première instance, a été prononcée le 31 mars 2025. Et donc, à partir de là, elle court à partir de cette date, 31 mars 2025, 31 mars 2027. On sait depuis quelques jours que le premier tour de l'élection présidentielle sera le 18 avril. Ça lui laisse la possibilité de concourir à l'élection présidentielle. On pourrait imaginer également qu'elle soit relaxée, mais soyons honnêtes, c'est pas tout à fait probable. Donc, c'est le scénario rêvé pour Marine Le Pen. Peine d'inéligibilité de moins de 2 ans. L'autre scénario, c'est que la peine d'inéligibilité soit de plus de 2 ans, ou bien qu'elle ait un bracelet électronique auquel elle a dit qu'elle n'irait pas, et à ce moment-là, c'est la carte Jordan Bardella.
C'est une situation absolument inédite dans l'histoire politique française, d'avoir à moins d'un an des élections, une décision qui va tout changer pour la démocratie du pays. Une décision judiciaire.
Alors c'est une décision judiciaire en effet, alors on peut se tourner vers les juges en considérant qu'ils ont une responsabilité importante. Cependant, il faut bien voir que les lois qui aujourd'hui prévoient l'inéligibilité, elles ont été votées sous la pression des électeurs, et même si elle n'a pas été appliquée en première instance, la loi Sapin 2, c'est une loi qui a pour but de contraindre le juge en rendant quasiment obligatoire le prononcé d'une peine d'inéligibilité. Donc au fond, bah là on se retrouve aujourd'hui avec une forme de serpent qui se mord la queue. Des électeurs seront probablement déçus, mais ces lois et ces contraintes au phénomène électoral ont été posées sur la pression des électeurs eux-mêmes.
Est-il possible, est-il imaginable que les juges réussissent à s'extraire totalement de la question politique ? C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a trois personnes qui ont entre les mains, en effet, une décision judiciaire qu'il faut qu'ils prennent, nonobstant la question politique, c'est-à-dire en faisant totalement abstraction de la question politique. Mais est-ce possible ?
Non, mais politique ne veut pas dire politicien. Quand vous prononcez une peine d'inéligibilité, il faut bien comprendre que vous réduisez, que vous contraignez les droits de deux types de personnes. D'abord, la personne qui est évidemment condamnée à la peine, mais la peine d'inéligibilité, elle a pour but d'abord de contraindre un choix électoral. Et donc, vous prenez en compte les droits également des tiers, et en l'occurrence des électeurs. Donc, vous faites un choix qui a une portée politique. Et dans la proportionnalité qui est celle pesée sur la peine, vous prenez en compte également l'impact électoral de votre décision. Donc évidemment, il y a une portée politique à cette peine, même si cette portée n'est pas nécessairement politicienne.
Vous dites évidemment que ça a des conséquences, non seulement pour la personne qui ne peut pas se présenter, mais aussi pour ceux qui auraient souhaité voter pour elle. Stéphanie est avec nous en direct, elle nous appelle au 3216 depuis Cannes, où vous êtes hôtesse de caisse. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue ce matin. Stéphanie, vous vouliez réagir, vous?
Oui, moi je pense que de toute façon, Marine Le Pen a toujours été massacrée, quoi, par tous les partis politiques. Et maintenant que les Français veulent absolument voter le RN parce qu'ils en ont marre de tout ce qui est présenté dans les élections, je pense qu'ils font tout pour qu'elle ne puisse pas se présenter.
Pour vous, la décision des juges, c'est une décision politique?
Ah largement. Et vous voyez, les sondages, tout le monde veut voter Marine Le Pen, mais à chaque fois, la dernière élection présidentielle, tout a été fait pour qu'elle ne soit pas élue. Et bon, je pense que les Français en ont marre de tout ce climat délétère qui existe en politique et qui veulent vraiment changer. Il faut arrêter tout ça.
Stéphanie, à aucun moment vous ne vous dites, parce qu'elle a été condamnée pour des faits, il a été considéré qu'elle était à la tête d'un système de détournement de fonds européens au profit du parti. Ça ne rentre pas en compte pour vous?
C'est-à-dire que prenez tous les politiques à un moment de leur vie, parce que ce ne sont pas des choses qui ont été faites il y a ces dernières années. Ça fait très longtemps.
Tout à fait, ça remonte à il y a très longtemps, effectivement.
Exactement. Alors, vous allez, dans chaque parti, remonter à 30 ans et plus de ce qui s'est passé.
C'est pas il y a 30 ans, Stéphanie. Mais ça veut dire que, en tout cas, vous considérez-vous que c'est une décision politique? Stéphanie, je peux vous demander, si Marine Le Pen n'est pas en capacité de se présenter, c'est Jordan Bardella vraisemblablement qui représentera le RN. Est-ce que ça change quelque chose pour vous?
Non. Même moi, j'attends. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour le RN, loin de là. Mais j'estime qu'il y a un acharnement et ça m'énerve.
Vous êtes contre cet acharnement. J'entends parfaitement, Stéphanie, et c'est important aussi que puisse être exprimé. Vous êtes hôtesse de caisse à Cannes. Merci de nous avoir appelé au 3216. Benjamin Morel, comment vous réagissez à ce qui est dit à l'instant, c'est-à-dire à une partie des Français qui disent que c'est une décision politique? En fait, c'est un acharnement.
C'est assez classique en réalité. Quand vous prenez toutes les grandes affaires politico-judiciaires, vous avez une solidification de l'électorat, de la personnalité derrière.
Mais est-ce que le risque justement politique, là pour le coup, ça peut être le sentiment effectivement que les juges les ont privés de cette élection?
L'électorat de droite a eu le même sentiment au moment de l'affaire Fillon, et on voit qu'aujourd'hui dans tous les électorats, il y a un doute qui s'insinue sur le rôle de la justice. Il faut également dire que ce soit au centre ou à gauche, à l'extrême droite ou à droite, il y a eu des affaires qui ont mené à des condamnations partout ces dernières années, ce qui fait relativiser le fait qu'il y aura un acharnement contre un camp ou un autre.
Une question, est-ce que le ministre de la Justice a un rôle quelconque dans cette histoire? Est-ce que Gérald Darmanin d'abord sait déjà ce qu'il va être décidé, annoncé cet après-midi? Quel est le rôle politique?
Alors normalement, être
officiellement
ministre de la Justice,
et officieusement, si je puis me permettre.
Officiellement, il ne sait rien et il ne donne que des consignes générales au parquet. Officieusement, évidemment qu'il peut y avoir des choses notamment qui remontent, et l'un des débats qu'on posera peut-être, c'est demain, si jamais Marine Le Pen peut se prononcer, enfin aujourd'hui plutôt, est-ce qu'il y a un pourvoi en cassation de la part du parquet? Et là, évidemment, derrière se posera la question de comment est-ce que se positionne le parquet. Et même si Gérald Darmanin ne peut pas donner des consignes directes, il y aura toujours un soupçon.
Il y aura toujours un soupçon. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir nous avoir aidé à imaginer les différents scénarios. Constitutionnaliste, maître de conférence à Paris Panthéon Assas. Et merci à Sophie pour son appel. Il est 7h50 et c'est l'heure de la voix de gauche. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, Kylian Mbappé visé par des propos complètement racistes, hallucinants de la sénatrice du Paraguay et le capitaine des Bleus qui a réagi sur les réseaux. Il a été soutenu dans le monde entier, mais notamment par le président de la République Emmanuel Macron. Il a bien fait de répondre.
Il a bien fait. Il rompt avec une tradition qui consistait à essayer de prendre sur soi et il a eu très bien fait de répondre à cette sortie abominablement raciste.
De réagir, et vous aussi vous réagissez d'ailleurs, vous n'hésitez pas, le 32-16 vous êtes ouvert, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 et vous êtes bien sûr RMC, le bonus Mathieu, Paul McCartney qui anime des mariages.
Peut-être des kermesses aussi, ouais. Des communions, je sais pas, mais en tout cas il était invité au mariage de Taylor Swift le week-end dernier. Et sur scène il a joué I Want to Hold Your Hand des Beatles, tube de 63, vous l'avez reconnu. Et c'est la première fois que la chanson était jouée en live depuis 1964, depuis donc les Beatles il y a une soixantaine d'années. Taylor Swift qui a régalé un parterre de stars pour son mariage, on sait qu'ils s'entendent bien avec McCartney, ils s'apprécient, on les a aperçus à leurs différents concerts respectifs récemment. McCartney qui vient de revenir sur le devant de la scène avec un album inédit. Écoutez ce petit extrait. Il raconte ses débuts à Liverpool en chanson. Alors Paul McCartney, il montre aussi les débuts de la Beatlemania dans une expo photo. C'est cliché à lui, hein. 250 photos de ses prises entre 63 et 64, les Beatles, les premières foules, les débuts aux États-Unis. Ça, c'est au musée Granet d'Aix-en-Provence et c'est jusqu'au mois de janvier.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche ce matin avec vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Kylian Mbappé serait, je cite, un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français et qui n'a pas appris à écrire. Ces mots, j'ai même du mal à les lire. La sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla. Le capitaine des Bleus lui a répondu sur les réseaux sociaux dénonçant une femme méprisable. Cécile, est-ce que l'attaquant français a eu raison de répondre ?
Il a eu raison de lui répondre. Il a eu raison de dire qu'elle n'était pas digne de sa fonction. Parce qu'à quel moment une élue d'un quelconque parlement peut tenir de tels propos ? Ça paraît invraisemblable. Et elle aurait pu, elle, s'indigner des propos de l'ancien gardien du Paraguay aussi. Enfin, il y a eu vraiment des propos outrageusement racistes. Et c'est vrai que Kylian Mbappé fait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que lui, il répond. Il répond fermement. Alors que souvent, on avait conseillé avant aux joueurs de laisser couler. Donc il a très bien fait parce que c'était insupportable.
Ça prend même un tournant politique et mondial. Emmanuel Macron a apporté son soutien à Kylian Mbappé, des politiques français aussi, et même le président de la FIFA qui a condamné le racisme. Pour vous, s'il n'avait rien dit, il n'aurait pas eu autant de soutien. C'est parce qu'il s'est exprimé, c'est parce qu'il a condamné les propos de cette femme.
Oui, parce qu'avant, on a bien vu une sorte de pudeur un peu générale. Les gens osaient rien dire. Et il y a des précédents.
Pudeur ou un manque de courage, quoi.
Quand je dis pudeur, c'est pour dire poliment que c'est de la lâcheté, parce que c'est une longue histoire, hein, le racisme et le foot. Mais en 1998, la sélection 98, nos premiers champions du monde, ils avaient vécu des attaques racistes de personnalités politiques françaises à l'époque, dont Jean-Marie Le Pen, qui avait sorti une sortie absolument odieuse, et il avait été dit qu'il fallait pas répondre, qu'il fallait en gros répondre sur le terrain, c'était ça la doctrine. Et pourtant on se souvient de ce que ça avait donné après, de ce que ça avait raconté de la France. Et Christian Carambeu, qui avait fait l'objet d'ailleurs des attaques de Jean-Marie Le Pen à l'époque, avait dit: nous avons représenté la France dans toute sa diversité culturelle, ethnique et géographique, nous étions le reflet de la société française, c'était une source de fierté de savoir que cette diversité avait donné quelque chose à la France. Et il a parfaitement raison, parce que c'est ça que raconte cette équipe. C'est une équipe de France qui nous rend fiers de ce qu'est la France aujourd'hui.
Et effectivement, il y avait eu les mots de Jean-Marie Le Pen, il y a eu ceux d'Éric Zemmour parfois sur la question de la représentativité, soi-disant, de notre équipe. C'est pas la première fois que l'attaquant star des Bleus est visé par des insultes racistes.
Non, c'est pas la première fois, et c'est aussi quelqu'un qui a eu des paroles politiques à l'inverse, qui a été courageux et utilement courageux. Et ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui, je crois vraiment profondément, parce que il y a plus que quelques discours racistes qui continuent à subsister. résister. Mais les joueurs, eux, n'ont plus peur de répondre, comme cette jeune génération, parce que si on regarde d'où viennent les joueurs, si on regarde une carte de France, d'où viennent les joueurs, ils viennent de toute la France. Sauf de la Bretagne et sauf du Sud-Ouest. Alors, le Sud-Ouest, c'est un peu le rugby, mais il y a quand même Didier Deschamps qui est né à Bayonne et son adjoint qui est né dans les Côtes d'Armor. Et surtout, il y a un élément qui n'a pas beaucoup été raconté, c'est que dans la Coupe du Monde, il y a 99 joueurs, dont l'équipe de France bien sûr, mais ailleurs, qui sont nés en France. Des joueurs qui sont binationaux ou qui ont été naturalisés. Donc il y a 99 personnes nées en France qui jouent la Coupe du Monde en ce moment.
Et Cécile Duflot, pour vous, c'est effectivement important de le dire désormais, on ne se tait plus.
On ne se tait plus et surtout, on se dit ce qu'est la France. La France, c'est sa diversité et c'est aussi des milliers et des milliers de clubs de football amateurs. C'est ça qui fait la France. C'est les 12 000 clubs de football amateurs, c'est les 2 400 000 licenciés et les 400 000 bénévoles. Les 400 000 bénévoles qui permettent à ces clubs de vivre, à ces joueurs d'être repérés et de faire notre fierté. Donc dans cette équipe, c'est toute la France, toute son histoire. Aussi tous ces bénévoles et surtout le courage de parler, de ne plus se taire face au racisme. Donc merci à Kylian Mbappé, merci à cette équipe de nous rendre fiers et à bientôt, puisque on peut imaginer que la troisième étoile ce sera aussi celle de tous ceux qui aiment le foot dans ce pays.
La suite, effectivement. Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Demain ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h, à la une, cette décision attendue cet après-midi de la cour d'appel de Paris pour Marine Le Pen. Elle saura si elle peut, oui ou non, se présenter à l'élection présidentielle. La météo, Géraldine Demory nous le dira, il fait toujours plus chaud et notamment dans le sud. Et puis après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Face à la nouvelle vague de chaleur, les Français adaptent leur consommation. Hein.
Oui, on a ausculté les tickets de caisse des Français et je vous dis tout ce que ça raconte de nos changements de comportement.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.